Salut, moi c'est Alice Vacher et dans l'empreinte, j'essaie de comprendre comment les marques s'engagent et agissent concrètement dans la transformation positive de notre société. Mon objectif est simple, décortiquer et mettre en lumière les initiatives sociales et environnementales des entreprises pour vous inspirer et vous éclairer sur ces sujets. Allez, c'est parti! Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Cac, le directeur général de Kellogg France, le groupe présent depuis 1968, qui occupe la première place sur le marché français des céréales, du petit-déjeuner, mais aussi, tu me disais, des Pringles. Hein.
Absolument. Enfin,
c'est pas le marché des Pringles, mais de l'apéro.
De l'apéro, exactement.
Je suis absolument ravie de t'accueillir dans L'Empreinte.
Eh bien, je te remercie.
Grosse marque, gros sujet,
ouais.
Beaucoup d'enjeux. Ici, on parle de développement durable, donc comme tu le sais, on va en parler. C'est quoi les principaux enjeux auxquels fait face le groupe Kellogg's en matière de développement durable?
Alors, c'est une longue et vieille histoire pour l'entreprise qui a pas loin de 120 ans et qui en France est présente depuis 55 ans, comme tu viens de le dire. Et on s'inscrit depuis très longtemps dans une démarche qui est à la fois de nutrition, de qualité auprès des consommateurs, mais aussi de l'amont agricole. C'est quelque chose qu'on maîtrise depuis une cinquantaine d'années dans nos approvisionnements et dans la chaîne de production. Alors, ça se traduit par une démarche qu'on appelle « Cultivons la simplicité en France », « well-being » en anglais, pardonnez l'anglicisme, mais c'est toute la démarche qui vise non seulement à porter des aliments de qualité autour de la table et de nourrir les populations, mais aussi d'avoir une démarche sociale et environnementale qui tourne autour de la qualité des produits, l'amélioration continue des recettes et aussi un apport dans la société, et on en parlera sans doute tout à l'heure, l'entreprise contribue également à la vie de la société en France à travers des actions caritatives.
Et j'imagine qu'en 120 ans, la demande a évolué. Là, on voit que les consommateurs sont de plus en plus soucieux et de leur santé, mais aussi de l'impact environnemental des produits. La marque a dû s'adapter, j'imagine. Est-ce que les recettes ont été changées, les produits, enfin...
C'est de l'amélioration continue. C'est-à-dire que chaque année en R&D, on développe des améliorations continues qui visent à réduire un certain nombre d'ingrédients, par exemple le sel, le sucre, des apports supplémentaires en fibres, l'huile de palme. Tous les produits sont avec une traçabilité de plus en plus forte sur les 16 ingrédients majeurs que composent toutes les filières céréalières. On y rajoute des qualités environnementales, par exemple notre cacao est complètement certifié Rainforest, donc tout le cacao qui est travaillé chez Kellogg's, Kellanova maintenant en Europe, et travailler à travers des filières vertueuses. Et ça, c'est aussi un engagement de l'entreprise.
Et en termes de, tu me dis circuit court, c'est-à-dire que c'est ultra local, tu vas bosser avec les agriculteurs, par exemple en France, vous bossez avec des agriculteurs français?
Alors, en partie. La démarche, elle est faite autour des centres de production a priori et en priorité pour pouvoir poser des centres de production là où les ingrédients majeurs sont récoltés. On a une usine en Espagne où les productions sont tournées autour des produits à base de riz soufflé et le riz vient d'Espagne.
Oui, le cacao, on ne peut pas le faire en France.
Le cacao, on ne peut pas le faire en France, donc évidemment, le cacao est importé et donc on s'engage sur une filière qui est vertueuse à travers le monde. Par exemple, la pomme de terre est produite en France et en Belgique, l'usine est à la frontière franco-belge. Il y en a une autre en Pologne, les pommes de terre viennent de Pologne. Le blé que l'on achète vient essentiellement d'Angleterre, l'usine est à côté de Manchester pour du circuit court.
Ça, c'est pour la France.
Pour l'Europe.
Pour l'Europe, d'accord. Et donc, pour les autres continents, ce sera...
Exactement. C'est-à-dire qu'on fait, à quelques exceptions près, parce qu'on ne peut pas se fournir de tous les ingrédients en Europe, mais à quelques ingrédients près, on se fournit dans du circuit court pour éviter... Alors, il y a bien évidemment une velléité aussi de production et de coûts, mais il y a aussi le privilégier des zones agricoles les plus proches de nos sites de production.
Et j'imagine que pour le transport, pareil, vous essayez de réduire l'empreinte carbone. De toute façon, aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous décarboner parce que...
Absolument.
Voilà, vous êtes le scope 3 de quelqu'un qui est le scope 2. Enfin, d'un côté, c'est un cercle vertueux,
oui,
on va dire.
Ce cercle vertueux pour l'empreinte carbone, il passe aussi par la production d'énergie. Aujourd'hui,
exactement.
95% de...
Les coûts...
Les coûts restent élevés parce que produire de l'énergie, ça, aujourd'hui, revient très cher. Mais aujourd'hui, nos usines en Europe produisent 95% de leur électricité de façon vertueuse,
avec
de l'éolien,
voilà.
Du solaire, du renouvelable, de la biomasse. Et l'objectif, c'est d'aller à 100% d'ici 5 ans.
Ah, génial. Et même, le mieux serait même que vous puissiez produire plus d'énergie, le stocker, le redistribuer autour. Ça serait génial.
Ça serait génial.
Que les entreprises puissent le faire, ça.
Mais aujourd'hui, les capacités de stockage, comme tu le sais, sont limitées. Quand on dépasse nos seuils, bien sûr, c'est remis dans les circuits locaux, que ce soit l'équivalent d'EDF, parce qu'on ne produit pas en France. Mais demain, si on a des capacités de stockage de l'énergie supérieures, bien évidemment, c'est ce qu'on fera. Dans l'instant T, on essaye de réduire notre empreinte carbone en étant vertueux du point de vue énergétique. Mais pas simplement. Il y a aussi un enjeu sur l'emballage qui est fondamental.
Tiens, vous faites comment, sur les emballages ?
Alors, sur l'emballage, on a une politique qui vise à aller vers du 100% recyclable. On n'y est pas complètement, on y est en partie.
Ça t'y es pas parce qu'à cause des ingrédients pour les conserver ?
Alors, il y a une partie technologique qui est importante pour trouver le conditionnement et protéger les aliments. Et au fur et à mesure, on le fait. Par exemple, on est en train de passer tous les sachets à l'intérieur des paquets de céréales sous une forme entièrement recyclable, ce qui n'était pas le cas auparavant.
Les trucs blancs,
ouais.
Blanc grisâtre, chelou.
L'idée, c'est de passer en 100% recyclable. Ça y est, on a le produit et on est en train de passer nos chaînes sur cet élément-là. En 2025, on passera une canne, ce qu'on appelle une canne, c'est le tube des emballages de Pringles, entièrement en recyclable.
Oui, parce qu'en plus, tu as plusieurs trucs. Tu as la canne, ensuite tu as le carton autour.
Avec de l'aluminium,
avec
etc.
Avec de l'aluminium, il y a 36 trucs dans votre
sac à part. Et ça sera complètement corrigé à partir de 2025. Okay. C'est un investissement, il faut le savoir aussi, considérable.
Et surtout que tu me disais que c'était quand même un énorme produit pour vous, donc c'est toutes vos chaînes à revoir.
C'est toutes les chaînes qui sont à revoir, mais aussi le coût même de l'emballage. Un emballage entièrement recyclable, ça coûte 50% plus cher qu'un emballage classique.
Et ça va être répercuté sur le prix du produit ou pas ?
Ah bah, évidemment.
D'accord. Non, évidemment. Mais c'est important de le savoir aussi.
Toute avancée technologique, qu'elle soit sur de la recette, que ce soit sur du conditionnement, que ce soit sur des avancées d'innovation de goût, n'est pas gratuite. Mmh. Et à un moment donné, elle doit peu ou prou se répercuter auprès du consommateur et il faut qu'il l'entende. C'est-à-dire qu'on demande aux entreprises d'être de plus en plus vertueuses, d'investir de plus en plus d'argent dans des recettes, dans des changements technologiques, dans de la production d'énergie verte. Tout ça a un coût astronomique. Mmh. Et bien évidemment, l'idée, c'est de programmer ces échéances pour l'avenir, pour le bonheur de la planète, pour nos consommateurs, pour nous. Mais ça se fait à un rythme forcé, et c'est évident, on a des urgences climatiques qui nous l'imposent, mais pour autant, ce n'est pas gratuit.
Et comment tu fais quand tu as une marque comme ça qui distribue en quantité, puisque c'est quand même des produits plaisir, hein,
ouais.
Apéro, céréales, assez addictifs même. comment tu fais pour encourager la consommation raisonnée, raisonnable ? Alors, tu me parlais de réduire le sel, le sucre,
ouais.
Mais ça reste addictif hein, pour être consommatrice.
Ouais.
On a tendance à ne pas pouvoir s'arrêter. Comment est-ce que, mis à part sensibiliser, en parler, comment est-ce que vous faites ?
Alors, il y a une partie éducative aussi. Il y a une partie éducative et on a des programmes de nutrition. Par exemple, en France, on essaye de proposer à des enfants défavorisés quelque chose comme 100 000 petits déjeuners par an à travers une association qui s'appelle Andes. Ce sont des épiceries solidaires avec qui on travaille et on produit des ateliers d'éducation au petit déjeuner. D'abord, on offre à des enfants qui n'ont pas forcément l'occasion d'avoir un petit déjeuner le matin, l'occasion d'avoir un petit déjeuner, mais c'est aussi l'occasion d'éduquer sur la façon de consommer, sur les quantités à absorber. Parce que bien évidemment, que ça soit pour quelqu'un qui a un petit déjeuner à travers de la boulangerie et qui va absorber 3 pains au chocolat, si vous absorbez ce qui est une bombe calorique, hein, bah c'est exactement la même chose. Si les quantités ne sont pas maîtrisées et si les apports nutritionnels ne sont pas connus, bien évidemment, il y a des excès et tout passe par l'éducation.
Oui, et puis en plus, on le voit au dos des paquets, quand il y a l'espèce de 30 grammes, on ne se rend pas compte, nous, 30 grammes, ça ne ressemble à rien dans notre bol. À chaque fois, on se dit, ben non, on en met le triple, donc c'est un peu compliqué. Tu me parlais aussi de vos engagements en matière sociale, peut-être vos employés, mais aussi sur les consommateurs. C'est quoi vos engagements principaux ?
Alors, on a développé en France, à travers notre programme qui s'appelle Cultivant la simplicité, un programme qui est articulé autour d'abord de partenariats avec 3 associations. Et on offre à ces associations l'équivalent de 500 000 euros par an. Alors, on le fait sous différentes formes. Produits, argent, on travaille avec les épiceries Andes, qui sont des épiceries solidaires, notamment tournées vers les jeunes et vers les étudiants. Et pendant le Covid, Dieu sait si ça a été nécessaire. On travaille aussi avec les banques alimentaires et enfin avec la Croix-Rouge. À travers ça, on offre de la marchandise. Là, on a fait un apport supplémentaire pendant les mois qui viennent de s'écouler en réponse à Aurore Berger qui a demandé des efforts supplémentaires qui sont bien légitimes, étant donné la situation économique et sociale en France. Mais en parallèle, on fait d'autres choses. On a ce socle, puisqu'on a essayé de focaliser nos activités, pas la disperser dans 50 associations, c'est notre choix. Et on a essayé d'impliquer le plus possible nos employés de la façon suivante. Un, on demande à nos employés sur leur temps de travail, de consacrer 2 demi-journées par an à de la distribution alimentaire, que ce soit avec les banques alimentaires ou chez Andes ou avec la Croix-Rouge. 2, ça fait même partie maintenant de leur critère d'intéressement participation. C'est-à-dire que pour toucher la participation intéressement à son taux plein, il faut avoir fait 2 demi-journées d'activités solidaires en France pour la solidarité nationale.
Hyper intéressant. Et pourquoi vous avez choisi ces causes-là ? Parce que choisir, c'est renoncer, donc il y en a plein sur lesquels...
Oui, c'est très difficile. L'idée, c'était de se focusser sur 2-3 partenaires. Alors, il y en a d'autres qui sont même plus célèbres, tels les Restos du Cœur. L'idée, c'était de ne pas être en réplication de ce que tout le monde fait. Donc, on a trouvé que ce système des épiceries andaises solidaires développées à la fois une vertu économique pour réintroduire des gens dans un système social et économique du travail. 2 jours à travers cette association, on a pu développer des partenariats. Et je te disais, on a développé des ateliers de petit déjeuner pour des gens et des enfants qui n'ont pas le droit le matin, malheureusement, par leur revenu. Et ces activités-là nous permettent à la fois d'éduquer, d'apporter 100 000 petits déjeuners. Alors, on voudrait beaucoup plus, mais on essaye de développer graduellement cette activité dans ce sens-là. L'activité avec les banques alimentaires, elle, a voulu combiner à la fois le don, mais aussi impliquer les salariés dans la culture de l'entreprise, qui est aussi de participer à des associations caritatives, ce qu'on fait dans le monde entier. Je peux t'assurer que quand j'ai été à une réunion aux États-Unis, on avait 2 jours de séminaire et on est allé, tous les PDG des entreprises du groupe sont allés passer une demi-journée dans des centres communautaires pour aider les communautés locales. Donc c'est une empreinte qui est mondiale, mais qu'on essaye de dupliquer au niveau local en tenant compte de l'environnement dans lequel on est. Bien évidemment, quand on est au Nigeria, ça se produit d'une façon adaptée au pays.
Oui, mais j'ai un sujet qui me vient, c'est le gaspillage alimentaire. Comment vous faites ? Parce que vous êtes, j'imagine, en proie à ce gaspillage. Alors, d'un côté, tu me parles du Kenya, qui ont pas, ou des enfants qui n'ont pas à manger. Et d'un autre, il y a du gaspillage énorme, j'imagine. Comment vous faites ? Surtout que vous êtes quand même sur des DLC qui sont assez longues.
Ouais.
Mais il reste du gaspillage. Vous faites comment ?
Quasiment plus.
C'est vrai ?
Quasiment plus. C'est-à-dire que...
C'est-à-dire quasiment plus.
Il y a toujours une petite partie de destruction de matière, mais qui a été réduite, par exemple, en 3 ans, on l'a divisé par 20. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les NPI, les Non-Product Inventory, c'est-à-dire les produits qui sont soit à date courte, qui sont des invendus ou autres, sont remis dans des circuits courts ou soit donnés. Mais l'idée, c'est absolument zéro gâchis. Zéro gâchis pour l'entreprise, parce qu'il faut se le dire, ça coûte beaucoup d'argent.
Oui, c'est ça.
Et la perte était un vrai problème. Deuxièmement, on a ces filières de dons qui nous ont permis aussi de réinjecter une partie de ces produits qui sont en parfaite condition. Il ne s'agit pas de donner des produits périmés ou quoi que ce soit. Il s'agit avant qu'ils soient périmés, d'être réinjectés dans un cercle vertueux.
Vous anticipez beaucoup les DLC, c'est normal, mais même sur certains, même avec les DLC dépassés, c'est encore consommable.
Oui, après, on a des obligations légales. Bien sûr. On ne peut pas faire n'importe quoi.
Ça m'a toujours, parce que moi, je viens de la grande distrib,
ouais.
Ça m'a toujours vraiment, je vais pas être vulgaire, mais embêté, parce qu'il y a des produits qui étaient encore vraiment consommables, mais qu'on était obligés de jeter. Et je trouve ça Bref, mais sur le gaspillage alimentaire, moi, c'est un sujet, c'est vraiment le sujet qui m'a fait tomber dans la RSE. Mmh. Donc, moi, ça me parle.
Je comprends. Alors, sur le frais, c'est très compliqué parce que.
Et puis, en plus, ça peut être dangereux.
Il y a des enjeux bactériologiques très forts.
C'est vrai.
Produits secs, on a moins cette.
C'est juste un peu mou et pas terrible.
Il faut faire attention. On ne sait jamais du point de vue bactériologique des ingrédients. Il peut y avoir des choses qu'il faut absolument contrôler et la traçabilité est absolument fondamentale. Par contre, on peut se mettre très facilement dans des cercles où on sait qu'une DLUO, DLC, tu l'appelles comme tu veux, qui pour le Carrefour, le Leclerc doit être à 9 ou 12 mois. Bon, on est à 6 mois, on est à 3 mois, c'est tout à fait consommable, c'est tout à fait vendable ou c'est offrable. Et c'est ce qu'on fait pour éviter le moindre gaspillage. Et je te dis, on a réduit cette empreinte par 20 en quelques années parce que c'était inacceptable.
Et une marque comme Kellogg's est obligée toujours de réinventer de nouvelles recettes, de nouveaux produits, etc.
Ouais.
Comment vous faites aujourd'hui pour concevoir de nouveaux goûts sans passer dans le... en fait, aujourd'hui, quand on repense un produit, on doit le repenser avec le consommer responsable, bio au maximum. D'ailleurs, ça, on n'a pas parlé du bio. Santé. Mais en étant attractif, parce que vous êtes une marque, quand même. Moi, quand je vois les Pringles, c'est quand même, c'est quand même le truc festif. Hein.
C'est fait pour ça.
Voilà, c'est aussi comment on arrive à être toujours sexy, attractif, mais responsable et santé, quoi.
Alors, il y a plusieurs sujets là-dedans. Le premier, c'est que pour les produits existants, il y a une tentative d'amélioration continue des recettes, c'est-à-dire en amélioration d'apport nutritionnel, de qualité, de baisse des ingrédients qui sont impactants, comme le sel, le sucre, et l'huile de palme.
Puis les produits transformés au max.
Exactement. Donc là, il y a des recettes qui sont améliorées chaque année, et on les met ou pas sur le marché en fonction de la capacité des consommateurs à absorber. Mais il y a une règle de base. Sur ces produits-là, on ne transige jamais avec le goût. C'est-à-dire qu'une marque comme Trésor, qui a des produits qui sont particulièrement attractifs et qui attirent de nombreux consommateurs en France, il n'est pas question un seul instant de toucher au goût. C'est-à-dire que chaque amélioration de recette a dans son cahier des charges un goût constant. Mmh. Tant que le goût n'est pas constant, on ne change rien. Bien sûr, on a des recettes, on en met sur le marché régulièrement. Dans ces 3 dernières années, on a rénové, par exemple, une marque qui s'appelle Spécial K.
Celle-là, elle est ancienne. Hein.
Elle est très ancienne. Et on est passé de Nutri-Score C à B.
Mais ça qui est fou, c'est que Spécial K, tu me dis c'était un Nutri-Score C, alors que c'était censé être le truc diététique et santé.
Oui.
Non, mais comme quoi, il y avait...
Mais attention, un Nutri-Score, quand on regarde un Nutri-Score qui soit E, D, B ou C... Si tu le compares dans ces catégories-là à ce qu'est un pain au chocolat...
Oui, non, mais c'est pas comparable.
T'es à des années-lumière.
La volonté, tu sais, quand tu manges un pain au chocolat, c'est pas diététique. Alors que Spécial K, tu pensais que tu faisais diététique.
Vrai, mais ça passe par des améliorations continues, mais aussi une acceptation, encore une fois, que la recette reste de même goût. Mmh. Parce que si le goût n'est pas là... Ça pose un problème quant à
c'est plus le même,
c'est plus le même produit. Ouais, c'est un vrai problème. Et puis après, il y a une acceptation du prix. Parce qu'un changement de recette, ça coûte des millions.
Et est-ce qu'il y a des produits que vous enlevez carrément du marché? Parce que vraiment, plus aux normes et plus...
Non, on n'a pas ce sujet-là.
D'accord.
On n'a pas ce sujet-là. Il y a quand même de base, dans les recettes de l'entreprise, 16 ingrédients de base qui sont fondamentalement bons.
Mm.
Après, c'est aussi une question de dosage, de sucre, de sel et éventuellement de compensation par rapport à l'origine des produits.
Et est-ce que vous lancez du coup des nouveaux produits très santé par contre qui répondent ou pas spécialement?
Pas particulièrement. D'accord. On fait très attention à la qualité de nos recettes, à nos approvisionnements, l'apport nutritionnel équilibré, la façon dont on les consomme. Mais pour te donner un exemple, le Pringles que tu trouves très addictif, il est l'équivalent d'un Nutri-Score C.
Ouais. Il est quand même très adapté. Oui, mais le problème, c'est la quantité, tu vois, c'est ça.
Oui.
Et puis, tu sais, c'est quand même pas bien.
Mais
A, ce serait parfait. A, B, ce serait bien tout
oui,
le temps.
Oui, mais...
De toute façon, c'est de temps en temps, c'est l'apéro, quoi.
Mais pour tout dire, on a des recettes à base de non-pommes de terre dans nos cartons et qu'on a développées pour d'autres pays ou qu'on pourrait installer en France. Mmh. Après, quand on lance une marque dans un pays, on regarde s'il y a, à travers des tests consommateurs, s'il y a une appétence pour le consommateur à les manger. La réalité, c'est que sur le papier, il faut que tout soit le meilleur en A, mais les gens n'en veulent pas.
Ah bah non, mais en fait, ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. C'est justement là que moi, j'aimerais dans mon monde de bisounours, que les grands groupes s'engagent, en fait, parce que si tout le monde propose du A et tout le monde s'engage à proposer des choses peut-être moins attractives, moins sucrées, moins salées, bah, il n'y aura pas de choix avec du sucré, du trop salé, du machin. Et peut-être que du coup, bah, tout le monde sera obligé de faire un peu plus attention, de manger moins, de manger mieux, de manger local.
C'est ce qui se passe.
C'est ça, je me dis petit à petit, il faudrait que tout le monde...
Mais c'est fait graduellement.
Je sais.
Parce que sinon, l'empreinte au goût n'est pas acceptée. Donc, c'est ce qui se passe de façon graduée.
Mais regarde,
c'est
un bébé,
normal.
Moi j'ai ma grande sœur qui a une petite fille, elle ne lui met pas de sel, elle ne lui met pas de sucre. Et du coup, moi, je la vois rejeter les produits justement ultra transformés. Et j'adore, et je me dis, waouh, j'aurais aimé, moi, comme ça, en fait, pas aimer le sucre et le sel. Et c'est une question, comme tu le disais, d'éducation.
C'est de l'éducation.
En fait, aujourd'hui, et c'est pour ça que, moi, je reste dans mon monde de bisounours utopiste où il faudra vraiment, je pense, qu'on réinvente. En plus, l'alimentation, c'est censé être du carburant. Et donc, du plaisir, bien sûr, mais du carburant.
Aussi.
Mais je pense qu'on prend toujours du plaisir, même en mangeant un peu moins salé, moins sucré. Et je te dis, je suis addict au chocolat. Donc,
Mais voilà. C'est ce que je te disais, nos produits, en une dizaine d'années, ont perdu 17% de sucre, 27% de sel.
Ouais, il y avait trop de sel. Ouais, mais de toute façon, il y avait du sel partout.
Donc, ça, c'est aussi... Alors après,
Il y a même du sel dans les trucs sucrés.
Vrai. Mais ouais. Si tu veux, dans des granolas ou des produits céréaliers qui sont en morceaux, comment tu veux qu'ils se tiennent les uns avec les autres si tu n'as pas un liant ?
Faut mettre du miel ou du... Ouais,
ah, mais il y en a aussi.
Ouais.
Mais ces liants, si industriellement, ou même si vous tu le faisais chez toi dans ton four, tu es bien obligé d'avoir quelque chose qui tient le tout.
Est-ce que vous mettez toujours du sirop de glucose fructose ? Ça, apparemment, c'est un truc atroce, ce truc-là. C'est lequel ? C'est le sirop de glucose fructose ?
Non,
il n'y en a plus, ça.
C'est plus du tout dans
Ah, c'est bien un truc qui a été viré, ce truc-là.
Il y a du miel, il y a d'autres choses. Miel Pops.
Miel Pops, ça, c'est le truc de mon enfant. Samuel Pops. Ouais, non, mais c'est vrai que quand tu en parles, moi j'ai passé mon enfance avec ces produits-là et je peux pas cracher dessus hein, parce que c'est des bons souvenirs. Mais c'est vrai que voilà, j'aime voir se transformer aussi, évoluer le monde parce que finalement.
C'est le cas.
C'est le cas. Tu vois, tu me dis, ça fait 50 ans, 50 ans c'est les 30 glorieuses. On a quand même fait un peu tous trop n'importe quoi. Enfin, moi j'étais pas là.
Oui,
j'étais
mais
pas encore née.
C'est une prise de conscience. C'est une
Exactement.
Prise de conscience progressive, mais qui a des différentes vertus. C'est l'éducation des consommateurs. Nous, on travaille avec des agriculteurs dans le monde entier. C'est ce que je te disais off. On a des gens qui travaillent pour l'entreprise depuis des décennies. Et on est partenaire avec 400 000 agriculteurs dans le monde. On n'a pas attendu que le gouvernement français se dise « il faut protéger l'amont agricole dans ce pays ». On le fait dans le monde entier.
Est-ce que vous les accompagnez sur la transition biologique ou pas ?
Pas biologique. Biologique, c'est au sens large du terme. C'est-à-dire que...
Vous n'avez pas beaucoup de produits bio, vous ?
On en avait, on les a arrêtés parce que ça ne marchait pas.
La
filière du bio, c'est ce que tu voulais, tu vois, tu veux des transformations
trop rapides. Non, mais c'est hyper intéressant que tu me dises ça, tu vois.
Par contre... être vertueux sur la production, sur la qualité, sur aussi attentionner sur le revenu de ces agriculteurs. Non, que la filière soit vertueuse, qu'ils puissent gagner leur vie avec leur production, qu'ils ne fassent pas n'importe quoi avec leur production, qu'on fasse attention aux terres agricoles, aux pesticides, à tout ça, c'est ce qui est fait depuis des décennies. Et ça a un changement majeur dans l'environnement récent, dans la décade qui vient de se passer. Pour nous, c'est quelque chose de très ancien. C'est comme je te disais, sur des usines où on produit de façon responsable 95% de notre énergie, on n'a pas fait ça en 2 ans. C'est des décennies d'études, d'investissement pour arriver à ça. Et c'est normal. C'est normal parce qu'on y voit des vertus économiques, mais on y voit aussi des vertus quand on voit le climat changer et l'entreprise est complètement dans cette activité-là. On est les champions du végétal. On va faire attention au végétal, c'est évident.
Mais écoute, merci Olivier. Merci,
merci
d'être venu dans l'empreinte. J'ai appris beaucoup de choses. Et puis, continue à investir. Vous avez des sous. Continuez à investir pour du plus durable et plus responsable. Et merci à vous. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. Et proposez-moi des profils aussi inspirants. Je me ferai un plaisir de les avoir dans l'empreinte.
Merci.
Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager, mais aussi commenter le podcast. Un grand merci pour tous vos retours d'ailleurs. Nous les lisons avec intérêt et ils nous sont très utiles pour continuer à nous améliorer. À très vite dans l'empreinte.